relations amoureuses et dans, si vous voulez, dans les recherches, on prend toujours deux variables pour les mesurer. On prend la notion d'application et de renouvellement. L'application, c'est la durée de la relation, et le turnover romantique, c'est le nombre de relations que l'on peut avoir. On essaye de voir en quoi ces deux dimensions vont influencer le devenir de ces jeunes. Ce qu'il est important de retenir ici, c'est vraiment que dans cette phase-là, il y a des apprentissages qui se font, qui sont des apprentissages qui sont fondamentaux par rapport à l'âge adulte, et c'est l'apprentissage de l'intimité romantique. Donc c'est vraiment de pouvoir s'inscrire dans une relation intime avec son partenaire amoureux, intimité en termes d'échange, intimité en termes d'affectivité, intimité également au niveau sexuel. Et l'autre dimension qui se développe et qui demande à être développée, ce sont les compétences en résolution des conflits. J'aime beaucoup la phrase d'Arnett, donc qui est celui qui a mis en évidence ce concept de emerging adulthood. Le développement romantique est un long voyage que nous faisons ensemble, au cours duquel les compétences romantiques doivent être acquises pour atteindre l'une des tâches majeures de développement de l'âge adulte: s'engager dans une relation amoureuse, satisfaisante, saine et durable. Alors évidemment, on pourrait discuter de cette dernière partie de la déclaration, mais là non plus n'est pas l'objectif, toujours est-il qu'il s'inscrit vraiment dans une perspective développementale et que ce n'est pas acquis au départ, que l'on dispose de ses compétences et que l'on dispose également de cette prédisposition à pouvoir évoluer dans une relation intime. Et effectivement, vous savez que à l'heure actuelle, un autre domaine qui est vraiment remis à jour, c'est le domaine de l'attachement, qu'on a un petit peu abandonné dans les pratiques, etc., mais qui est vraiment remis à l'ordre du jour. L'attachement auquel on va s'intéresser, d'une part, l'attachement parental, et avec la question de se dire, est-ce que l'attachement parental qui se développe au cours des premières expériences du petit enfant avec les figures de soins ou les figures parentales, est-ce que cet attachement va influencer le type d'attachement que l'on va développer dans le cadre de ces relations amoureuses? Si on va plus loin, on pose aussi la question, est-ce que cet attachement ne va pas aussi orienter le type de rapport que l'on va avoir avec les professionnels de la santé, etc. Donc, en termes d'adhésion aux soins. Alors, donc, c'est une question qui est posée avec vraiment pas mal de controverses, parce que certains vont dire, bah oui, l'attachement parental, rappelez-vous, vous avez déjà vu l'expérience du bébé qui est en train de pleurer et qui va faire face à la réaction d'un parent qui va être soit sans manifestation émotionnelle du visage, totalement fermé et sans réaction de réassurance, puis on va avoir un visage qui va sourire de la maman, qui va réassurer, et cela va conduire à des réactions du bébé qui va être soit apaisé, soit qui va être en mouvement de retrait. Et on identifie trois formes d'attachement. Pourquoi je les rappelle? Parce qu'on va les re-questionner dans le cadre de la relation amoureuse: l'attachement sécure, l'attachement évitant et l'attachement anxieux. Et donc, la question est posée de savoir finalement, est-ce que cet attachement que l'on développe au cours des premières années va-t-il être lié, en lien, ou va-t-il déterminer? Alors moi, je prône en tout cas je conteste en tout cas toute perspective déterministe. Je me dis chaque étape de vie, chaque transition, chaque période développementale est une opportunité pour développer de nouvelles compétences et également au niveau de l'attachement. C'est ma position également d'autres auteurs. Donc c'est dire que l'attachement va effectivement développer avec les figures parentales, va avoir une influence sur comment on va évoluer dans l'attachement dans ces relations amoureuses, mais ça ne va pas être déterminant. Et la relation amoureuse va pouvoir être l'occasion aussi de revoir ces types d'attachement. Vous voyez un petit peu les notions d'attachement? Donc ça veut dire un enfant, quand il a un attachement sécure, c'est qu'il a intégré un modèle interne opérant qu'on appelle, où il va pouvoir s'appuyer sur une sécurité, de dire il y aura quelqu'un qui va répondre à mes besoins en situation de stress ou quand je serai dans une situation de stress intense ou de difficulté. Donc, ça c'est vraiment une synthèse. Si Bowlby était là, il tomberait raide mort, mais pas tout à fait, parce que ça permet, je pense, aussi de simplifier, je dirais, son écrit. Donc, avoir un attachement sécure va permettre d'évoluer avec confiance dans une relation, avec aussi autonomie, parce qu'un attachement sécure permet d'une part de pouvoir, je dirais, s'appuyer sur le fait qu'on peut anticiper, qu'on va avoir réponse à nos besoins, et notamment en situation de stress, mais en plus, cela va permettre d'explorer le monde. Donc, c'est-à-dire, ça va permettre de bien se séparer et d'aller explorer le monde. Et quand on a un attachement sécure, on a ces deux dimensions qui sont présentes, l'articulation de pouvoir à la fois être sécurisé et à la fois on peut explorer et se séparer sans être aux prises avec une anxiété. L'attachement anxieux, alors l'attachement anxieux, justement, tout ça n'a pas pu être intégré et il y a vraiment l'angoisse d'être abandonné. Il y a une préoccupation constante qui est de dire est-ce que l'autre va être là pour moi, est-ce que je suis là pour l'autre, est-ce que je risque d'être abandonné. Donc ça va être des sujets qui vont être beaucoup plus insécurisés et aux prises avec vraiment cette crainte d'être rejeté, cette crainte d'être abandonné. Vous savez combien c'est cette crainte et ces angoisses, je dirais, d'abandon et de rejet sont particulièrement présents, notamment dans les séparations de couples. Et notamment, si je dois faire une petite parenthèse au niveau des féminicides, on voit que ça renvoie vraiment très fortement à cette période de séparation qui est invivable, insupportable par l'auteur de ces homicides conjugaux, dans une grande partie de ceux-ci en tout cas. Et donc, cet attachement, je dirais anxieux, ben, s'organise également initialement dans le cadre des relations et des figures parentales qui n'ont pas pu, je dirais, apporter cet apaisement, apporter des réponses de sorte à apaiser l'enfant, lui permettre d'anticiper des réactions de protection. Et l'attachement évitant, donc il y a un modèle d'attachement qui va reposer sur le fait que on va éviter parce que on craint les émotions négatives, on n'a pas eu des réponses qui permettaient un engagement dans la relation affective, aussi une réassurance par rapport à ce besoin de protection quand on est enfant. Et dans l'attachement romantique, avec cette crainte de pouvoir être dévoilé, vu dans ses émotions réelles, avoir une peur de s'engager, une peur de se dévoiler, et donc avec une coupure qui va se faire. Alors, c'est un peu caricatural, mais c'est quand même intéressant parce qu'on voit que ces types d'attachements qui se construisent au cours de l'adolescence et au fil des relations également, si vous utilisez cette paire de lunettes pour lire les interactions, ça permet d'avoir des outils de compréhension également sur le surenvahissement d'un partenaire à l'égard de l'autre partenaire, l'anxiété envahissante et perturbante par rapport à toute prise de distance, ce qui va amener à des conduites aussi de contrôle, l'impossibilité de pouvoir être aux prises avec les émotions et de pouvoir manifester et reconnaître les émotions dans lesquelles il y a. Donc, intéressant de pouvoir vraiment, je dirais, l'envisager. Ce n'est pas de nouveau le seul élément, mais par rapport à la prévention, flash prévention, tout ce qui se fait en périnatalité, c'est-à-dire dans les situations où il y a des troubles au niveau de la parentalité, des difficultés dans la fonction parentale à l'égard de la petite enfance, avec des dispositifs d'intervention qui actuellement sont mis en place et qui sont diffusés en Europe et aussi au Québec, qui vont travailler sur ces relations premières, elles sont fondamentales. Et pour moi, c'est aussi de la prévention primaire par rapport à ce qui se joue après. Parce que ces interventions qui se basent sur des rétroactions vidéo, notamment sur la relation parent-enfant, va permettre de mobiliser une disponibilité chez le parent pour développer des réponses qui permettent à l'enfant de développer cette sécurité interne. Donc, ouais, c'est comme combien c'est vraiment important. C'est une paire de lunettes et une lecture que l'on peut également engager dans le travail que l'on fait avec les jeunes pour justement décoder les comportements dans lesquels ils peuvent être et par rapport à l'anxiété également, par rapport à cette prise de distance et cette perte de contrôle par rapport à l'autre. Donc, à ces notions d'attachement, il y a cette notion d'intimité, donc j'y reviens encore, parce que l'intimité est au centre de la relation amoureuse, et la peur de l'intimité, ou l'évitement de l'intimité, ou l'anxiété en lien avec l'intimité, va se retrouver vraiment on vient de faire une recherche tout à fait récente qui est en voie de publication sur les jeunes adultes, et on voit que le facteur le plus explicatif des coercitions sexuelles, c'est le déficit d'intimité, c'est-à-dire cette difficulté à pouvoir évoluer dans les relations intimes. Donc il s'agit de jeunes adultes et qui ont déjà eu des relations amoureuses et pour lesquels on a pu mettre ça en avant par des modèles statistiques, il faut valider évidemment scientifiquement. Donc cette notion d'intimité Vous voyez, c'est encore différent de l'affectivité, donc c'est la proximité dans la relation, comment on vit la proximité dans la relation, est vraiment un élément très intéressant, capacité à donner et à recevoir du soin de l'autre, tout en maintenant simultanément le sens de soi. Donc, vous voyez, donc c'est, ça fait référence, capacité d'échanger des pensées, des sentiments significatifs sur le plan personnel avec une autre personne signifiante. Donc, c'est des points de repère également qui vous permettent de renvoyer à cette notion qui peut être un concept un petit peu flou, et qui néanmoins est très important. Donc, on peut déjà penser et dire que développer des attachements de type sécure au sein des relations amoureuses va être profitable également pour une évolution dans le futur, dans des relations, d'autres relations, avec cette sécurité qui peut être engrangée au fil des relations. Petit rappel encore, puisqu'on a parlé, je ne sais pas si vous voyez, parce que dans ce que je dis, il y a des éléments qui vont mettre en lumière des éléments plutôt négatifs, traumatiques, perturbants, relevant vraiment de ce qui nous préoccupe, mais en même temps, je voudrais bien mettre aussi le focus sur des éléments qui sont intéressants. Et les recherches, encore de nouveau, sont des recherches récentes, mettent vraiment en évidence que le fait d'évoluer dans des relations amoureuses pour les adolescents et les adultes émergents, eh bien, cela amène un bien-être qui est plus élevé que pour les célibataires. Je suis désolée, on pourrait les appeler autrement que célibataires, que ceux qui ne sont pas engagés dans des relations amoureuses. Et le bien-être s'améliore à mesure que l'engagement ou le niveau de stabilité dans la relation augmente, de même que le niveau de sécurité au sein de cette relation. Et on voit que ce type de relation et d'expérience romantique, au moment, je dirais, de l'adolescence et au moment du début de l'âge adulte, va avoir un impact au niveau des expériences romantiques que l'on va avoir plus tard. Donc, sous le prisme, de nouveau, attachement, sécurité, négociation et apprentissage de tous ces éléments qui sont négociation, gestion des conflits, gestion des émotions. C'est bien tout cela. Mais tout cela, évidemment, nous donne des éléments par rapport à de la promotion à la santé amoureuse, la promotion à la santé mentale. Il n'en demeure pas moins que ces relations amoureuses, de par l'intensité avec lesquelles les adolescents les vivent, et ainsi que je le disais tout à l'heure, avec des enjeux conscients, mais des fois pas conscients, qui sous-tendent ces relations, avec des attentes, on a parlé ce matin, je réponds à toutes vos demandes, avec des attentes énormes qu'il y a de la part d'un partenaire à l'égard d'un autre partenaire, l'attente de combler, de réparer, de compenser, ou l'attente également de supporter, de soutenir un changement de soi, avec une idéalisation qui peut être présente, et donc cela va amener aussi des formes de dépendance au sein de ces relations, des formes de questionnement, et donc l'amour rend également vulnérable, l'amour et la relation amoureuse rend également vulnérable et met en avant des vulnérabilités. Un adolescent, une adolescente, donc c'est j'oublie un petit point, sur trois perçoit le contrôle comme un aspect inévitable des relations amoureuses qui permet aux individus de prouver leur engagement, leur amour et leur confiance envers leur partenaire. Ce qui revient à dire que pour un jeune sur trois, eh bien, contrôler, c'est montrer, c'est une preuve d'amour. Être contrôlé et contrôler. Tiens, Johnson nous avait parlé de ce contrôle. Eh bien, ici, il revient de par une autre voie, mais il revient et il nous parle de comment des conceptions des jeunes, de comment également ils vont adopter une lecture de leur comportement. Un jeune sur trois. Et parmi, je dirais, ces différentes stratégies et ces différents contrôles, des Souza, une publication tout à fait récente qui est aussi proposée ici, va mettre en évidence, à partir d'une approche qualitative et de discours d'adolescents qui ont subi des violences dans les relations sentimentales, va mettre en évidence trois stratégies. Les stratégies d'isolement, alors je ne vais pas vous mettre du verbatim parce que nous n'avons pas le temps, mais c'est s'énerver, exiger un changement de comportement lorsque son partenaire interagit avec une personne de sexe différent, ça vous parle. Exprimer sa désapprobation ou se mettre en colère lorsque son partenaire sort avec des amis. Influencer la liberté d'expression d'un partenaire en surveillant ce qu'il peut divulguer aux autres concernant sa relation, et utiliser la technologie pour surveiller les déplacements d'un partenaire et son utilisation sur les médias sociaux. Ça, c'est la réalité des ados, mais pas seulement, j'entends, des ados et des adultes, mais des ados, on s'intéresse aux ados et aux jeunes adultes. Ça, ce sont des stratégies qui sont mises en œuvre et qui vont amener l'isolement. L'isolement va amener une diminution de la possibilité du jeune de recourir et de rechercher de l'aide. Vous savez, un des éléments les plus, je dirais, difficiles dans l'aide que l'on veut apporter aux personnes, de manière générale, c'est les amener à ce qu'ils puissent demander de l'aide. Juste petite parenthèse. Vous savez, le temps, le délai qu'il y a au niveau de la population et de manière générale, pas seulement en Belge, mais de manière internationale, le délai qu'il y a entre la présentation des premiers symptômes psychologiques que l'on a et le recours à une structure de soins, une consultation, selon vous. Donc on a mesuré ce délai. Combien ? Un an, qui dit mieux ? 2 ans, qui dit mieux ? 3, 4, 5, 11 ans. Ce qui explique pourquoi les hôpitaux sont surchargés également de personnes qui ont eu un recours tardif à des services de santé mentale et qui sont donc qui ont une nécessité de soins plus intensifs d'hospitalisation. Donc ça, c'était validé. On voit que de nouveaux dispositifs en santé mentale permettent de diminuer ce délai à 4 ans. Ça reste quand même 4 ans. Ce que je dis là, c'est que dans le cadre des violences, ce recours à l'aide et les freins par rapport au recours à l'aide sont importants à prendre en compte. Parce que c'est une réalité que l'on voit dans d'autres domaines également. Et donc la recherche d'aide, elle va être entravée par ces stratégies d'isolement. Les stratégies d'isolement vont impacter le bien-être, la santé mentale, etc. Et l'isolement, les stratégies d'isolement dans les cas cliniques que l'on suit, c'est assez impressionnant comment elles s'inscrivent subtilement, naturellement, et combien elles sont reçues aussi, je dirais, naturellement par les jeunes, avec vraiment une acceptabilité au nom de cette relation et avec une validité, une légitimité que les partenaires accordent par rapport à cela. Donc, stratégie d'isolement, ça demeure une stratégie vraiment très importante, qui est la plus courante d'ailleurs. Stratégie de domination est également mise en évidence avec des menaces pour influencer le comportement et avec aussi alors, l'imposition de points de vue qu'un partenaire peut avoir avec la possibilité d'accepter un autre point de vue. Donc, quand on parlait de domination tout à l'heure, vous avez là l'exemple concret de ce que ça représente. Parce que des fois, quand on dit domination masculine, et j'allais dire musculaire. Merci pour le lapsus. Peut-être que c'est ma représentation, la domination masculine, on met cette masculinité avec cette force physique, etc. Mais non, elle s'observe dans le fait d'imposer son point de vue. On impose son point de vue, on n'admet pas l'autre point de vue. C'est de la domination, c'est-à-dire tu n'as pas droit à la parole et tu n'as pas droit à aller, etc. Donc, ce sont ces items ou ces questions que l'on pose également lorsqu'on fait des recherches pour mesurer la domination, parce que moi je trouve quand on parle de domination, ça dépend des salles, ici j'ai l'impression que la salle c'est ok, mais dans d'autres salles c'est pas ok, hein. Donc on dit domination parce qu'on a des représentations un petit peu, je dirais, stéréotypées ou pas, je ne sais pas, mais en tout cas cela peut être cela. Donc et enfin des stratégies de manipulation émotionnelle, donc manipulation, j'ai envie de mettre entre guillemets, donc c'est une recherche qui vient d'une autre chercheuse. C'est toujours pour ce qu'on met aussi dans manipulation, parce que ça nous conduit également à qualifier l'auteur de manipulation comme étant un manipulateur, et on est très vite un manipulateur pervers narcissique. Et moi, je contre tout à fait ces qualifications, ces caractérisations, ces typologies qui n'ont pas de fondement scientifique. Mais ce qui veut dire, c'est que cette manipulation prend le sens qu'il y a une influence qui est exercée pour, je dirais, obtenir ce qui est attendu de la part d'un partenaire, qui peut passer par la menace de rupture, la menace de suicide, qui peut passer par l'humiliation également, et qui peut passer également par l'absence de, je dirais, par l'ignorance et par le déni. Donc, on posait la question tout à l'heure, du contrôle et de la domination, nous avons des éléments de réponse par rapport à dire ces modèles qu'on avait construits, pas du tout en lien avec les adolescents. La réalité des adolescents étant quand même très éloignée de celle des adultes, mais néanmoins, on retrouve des éléments qui rejoignent finalement ces différents cadrages référentiels. Donc, de nouveau, flash prévention. Donc, il est important d'intégrer une éducation sur les différents comportements de contrôle qui sont plus subtils que la violence physique. Alors, quand je dis ça, je ne fais pas une gradation, une hiérarchie. Je dis juste qu'ils sont moins perceptibles comme tels et ils vont moins préoccuper le cadre juridique, le cadre psychologique. Néanmoins, l'impact de ces comportements de contrôle, non seulement il peut être important, mais c'est aussi l'antichambre de l'escalade vers d'autres formes de violence. Donc, il est important donc, d'intégrer cela dans l'éducation et la prévention, de discuter des façons dont le jeune peut soit discuter de leurs préoccupations avec leur partenaire, soit quitter la relation en sécurité. La deuxième partie, c'est plus compliqué, ça demande tout un cheminement également, mais en tout cas de pouvoir remettre ça dans un espace de parole qui va être tiercisé avec le partenaire. Discuter ouvertement des tactiques de contrôle. Une fois qu'on peut les identifier, je ne dis pas qu'on va pouvoir dire qu'on est dedans, mais en tout cas on va avoir un repère avec ces différentes stratégies et tactiques de contrôle qu'il pourrait alors, je dirais, permettre d'identifier si pas chez soi, chez l'autre, et donc ça nous renvoie la notion du support des témoins et des pairs par rapport à l'intervention et la gestion des violences dans les relations sentimentales. L'autre élément, c'est plus par rapport vraiment à cette agentivité des jeunes et cette confiance en leurs valeurs et en leurs croyances et leurs choix personnels qui permettrait évidemment de s'inscrire dans une négociation avec le partenaire qui serait de ne pas laisser aux oubliettes et pouvoir bannir ses propres valeurs au nom des valeurs du partenaire. Donc, on ne doit pas prendre à la légère ces éléments-là, on doit vraiment pouvoir les intégrer puisqu'ils sont des catalyseurs d'autres violences. Donc, on a des éléments de réponse par rapport au contrôle, en tout cas. On manque un peu encore d'outils pour pouvoir l'identifier, mais en tout cas, on doit se dire que ça doit faire partie de la sphère de la prévention et de l'intervention. Alors, je dois faire un détour quand même, hein, alors génération 3.0, je ne sais pas si c'est 3.0, je ne sais pas si c'est 3.0, 4.0, je m'y perds un petit peu, en tout cas on n'est plus au 2.0. Bref, vous connaissez cette génération. Si vous travaillez avec des jeunes, si vous avez des enfants, si vous vous regardez, eh bien, ça fait partie la prolongation du soi adolescent et le GSM, etc. Donc, on doit évidemment le questionner, puisque dans les violences, on va questionner cette cyberviolence qui est présente également. Mais avant de la questionner sous l'angle des violences, je voudrais rappeler à nouveau quelles sont les fonctions également de ces réseaux sociaux qui permettent une forme de socialisation aussi positive, de mise en contact avec les autres, d'expression des émotions qui ne peut pas se faire dans d'autres espaces, d'affirmer son appartenance à un groupe, d'assouvir une curiosité sociale, de rechercher, et surtout, on est là-dedans, de rechercher l'approbation par les pairs, et vous savez combien c'est important au centre des enjeux adolescentaires, et non seulement l'approbation, mais la validation, like, et d'explorer, d'expérimenter différentes facettes de soi, donc ça participe à la construction identitaire également du jeune, et donc on peut dire que c'est un dispositif, un support qui a des vertus en termes de développement, en termes de socialisation. Et donc, on va voir les déviations par rapport à ces vertus. On va voir l'autre facette tout à l'heure. L'autre élément également sur lequel je vais plus ou moins terminer sur le chapitre relations amoureuses, mais ça me semblait très important parce que moi, c'est une réalité clinique que j'ai à l'heure actuelle, qui sont ces cyber-rencontres. Donc, à l'heure actuelle, les jeunes... alors, il existe un tas de plateformes... qui ont été après censurés, mais il existe toujours, de rencontres de jeunes. Donc les jeunes se rencontrent, ont une relation amoureuse avec un autre jeune. Donc il dit « je suis en couple avec un tel ». Et... Tiens, vous êtes déjà vus ? Non ? On s'est déjà disputé, par contre, ça a pété, et lors de... quand c'est disputé. Je crois pas, on rit parce que, voilà, parce qu'on est dans une ambiance positive, mais je pense que c'est assez quand même, c'est très inquiétant. Très, très inquiétant. Et donc, le Covid, de nouveau, là, a boosté ce mode de rencontre chez les ados, chez les jeunes. qui donc vont se retrouver dans des modalités de quête amoureuse, de rencontre amoureuse, de rencontre de l'autre qui va passer par les médias, avec une identité de soi comme étant en couple, avec finalement aucun support présentiel, et avec des médias sociaux qui vont favoriser et intensifier l'insécurité et notamment la jalousie. Et ça aussi, à l'heure actuelle, les réseaux sociaux, les études le montrent, combien ces réseaux sociaux vont intensifier ou permettre l'exercice du contrôle et intensifier également la jalousie. Donc, ma petite patiente qui vient l'autre jour, dit « oui, je suis en couple, etc., etc. Et, » mais j'ai déjà trouvé quelqu'un d'autre, et j'étais là, et là maintenant je suis en couple avec tel autre, etc. Qu'est-ce que ça nous dit? Est-ce que ce sont les nouvelles modalités de parade amoureuse? Est-ce que ce sont les nouvelles modalités qui vont répondre aux besoins dont nous avons parlé pendant une heure et demie de ces adolescents, de ces jeunes adultes? Je ne suis pas convaincue. Ce qu'on remarque à l'heure actuelle, et dans l'analyse des dossiers judiciaires qu'on a fait dans le post-Covid, un an après le Covid, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a une montée vraiment de violence justement chez les mineurs dans leurs relations amoureuses. En fait, ces jeunes ont entamé leurs relations sur des réseaux sociaux, et puis ils se sont rencontrés dans le présentiel, et ce qui s'est passé dans un nombre suffisamment important que pour que ça puisse ressortir des données, ce qui se passe, c'est qu'il n'y a pas eu toute cette phase préparatoire, et il y a un décalage entre les attentes de l'un et les attentes de l'autre, entre la projection des intentions de l'un et la projection des intentions de l'autre, et donc ça amène vraiment des situations qui peuvent être, je dirais, de violence même extrême. Donc, je pense que c'est vraiment une préoccupation, ça doit aussi s'intégrer dans la prévention. Alors, si on nous dit que c'est une nouvelle modalité de mise en relation, qu'on équipe les jeunes, qu'on équipe les adultes qui travaillent avec les jeunes à pouvoir accompagner cette modalité de rencontre. Moi, personnellement, je peux avoir une opinion, c'est que moi, je vois ces jeunes qui viennent plaquer quelque chose par rapport à des manques, par le recours à ces relations, et qui manquent de maturité, d'outils cognitifs, d'outils affectifs, d'outils en termes de maturité également sexuelle, que pour évoluer dans exclusivement avec des rencontres en présentiel ponctuelles, dans ce type de modalité. Donc, voilà, donc je ne vais pas vous citer des situations, je suis une situation française assez dramatique qui a amené quand même un homicide et qui est partie de là. Donc, alors je ne vais pas non plus dramatiser, ce n'est pas l'objectif, mais de dire que là on est dans un champ vraiment qui nécessite vraiment, vraiment une attention. Donc l'existence de cette plateforme est vraiment tout à fait questionnante. Je vous parlais de jalousie. Et là, il y a aussi de nouveau des études récentes donc qui montrent, qui objectivent le fait que cette jalousie va être intensifiée, notamment chez les jeunes adultes ici, par les réseaux sociaux et par la visibilité, le contrôle et le suivi de tout ce qui est fait par le partenaire. Et donc, on va souvent retrouver la jalousie comme étant un facteur situationnel qui va déclencher des comportements violents. Là aussi, on eût pu penser que cette jalousie qui était fortement présente dans les grands romans et dans l'histoire, etc., n'était plus d'actualité, alors qu'elle est vraiment particulièrement d'actualité, exacerbée par le cadre de ce média, de ces médias. Et on peut voir qu'il y a un lien bidirectionnel entre jalousie et réseaux sociaux et perpétration de violences intimes. Et on voit que c'est circulaire, en fait. Le fait d'aller sur les réseaux sociaux va augmenter la jalousie, va augmenter le risque de violence, etc., etc. Donc là, de nouveau, c'est un point d'attention qui est vraiment très, très important et sur lequel il y a probablement des actions également à mener. Donc, on est en plein dans les violences, dans les relations amoureuses. On est en plein dans ces relations où on voit qu'il y a des dimensions de contrôle, des dimensions de domination, qu'il y a la jalousie, qu'il y a ces réseaux sociaux qui viennent soit s'avérer être une extension de ce qui se passe en présentiel, soit être exclusivement et vont moduler les relations amoureuses. Et donc, à nouveau, on peut voir que les jeunes sont particulièrement sensibles. C'est quoi la violence pour les jeunes? Donc, dans la violence amoureuse, on reprend un petit peu le même questionnement que nous avons eu là, tout à l'heure sur les relations amoureuses. Et l'on peut voir, alors, dans les différents groupes d'âge, que finalement, il y a quand même une conscientisation qui est quand même présente quand on va les questionner sur ce qui peut exister. Alors, on voit plus que c'est dans l'ordre du harcèlement dans le 12-15 ans, ce qui est un peu qui correspond également à ce qui avait été dit dans les 12-15 ans tout à l'heure en termes de ce qui était associé aux relations amoureuses. On voit que la jalousie, la possession, donc les insultes, l'harcèlement, donc on voit de multiformes de violences qui sont identifiées par ces jeunes qui sont dans, je rappelle, des focus groups, des groupes de discussion que l'on enregistre et puis qu'ensuite on décode avec des analyses thématiques, le manque d'attention, la fidélité, le non-respect du désir sexuel. Donc là, on a des éléments qui nous renseignent sur, tiens, où en sont les ados, les grands ados, par rapport à ce qu'ils peuvent imaginer comme violence dans les relations sentimentales. Ils sont pas mal, quoi, non. Par contre, il faut attendre 18-21 pour engager et intégrer les violences physiques, les abus sexuels, la domination, la dépendance, manipulation, indifférence, jet d'objets, possessivité excessive. Donc, vous voyez qu'il y a quand même de nouveau ce saut qui se fait entre les mineurs, si l'on prend d'un point de vue pénal, ou les adolescents, si on prend le point de vue développemental, et les jeunes adultes. Et ceci aussi de vous dire que ce n'est pas parce qu'ils peuvent identifier dans des groupes de discussion ou sur base de support que l'on fait ces différentes violences aux différentes étapes d'âge, que lorsqu'ils sont dedans, ils les identifient. Et c'est ça qui nous amène aussi à nous dire, pour faire de la prévention, il y a cette connaissance, et puis ensuite, il y a ce processus, je reviens dessus, de pouvoir s'auto-identifier quand on est dans ces relations comme étant l'un ou l'autre, victime ou auteur. Moi, j'utilise jamais le mot agresseur, je pense que c'est trop stigmatisant. Donc, j'utilise auteur de violence plutôt qu'agresseur, puisque ça, c'est encore plus difficile de s'auto-identifier comme étant agresseur. Hein. Donc, auteur de violence. Donc, ceci ne veut pas dire qu'ils vont l'identifier. Donc, il y a ce processus d'identification qui nécessite souvent l'accompagnement par un tiers. Alors, des chiffres, au départ, quand je présentais, j'ai préparé mon diapo, j'avais bien 10 diapos de chiffres, j'ai enlevé parce que, en fait, quand on prend les méta-analyses, alors une méta-analyse, c'est un chercheur qui va prendre toutes les analyses, toutes les recherches qui ont été faites sur un sujet avec certains critères qui vont dire, bon, j'ai regardé toutes les recherches qui ont été faites sur les 12-18, sur les 18-21, puis qui fait une synthèse sur ce qui ressort comme étant pertinent et redondant. Donc, je vous donne de manière plus vulgarisée ces chiffres, juste pour donner une idée. Jusqu'à 6 adolescents sur 10 ont vécu des violences physiques dans leur couple. Vous voyez, par rapport à leur représentation, on est déjà éloigné, la réalité est éloignée de ce qu'ils voyaient, parce qu'ils voyaient ça plutôt dans le couple des jeunes adultes. Jusqu'à 9 adolescents sur 10 ont vécu de la violence psychologique. Jusqu'à 4 adolescents sur 10 ont vécu des violences sexuelles. Donc, 113 études qui nous amènent à ce constat. On a fait une recherche. Moi, je l'ai faite en 2017, pas en 2009. Et là, ils ont eu des chiffres vraiment énormes. 90% disent avoir été victimes de violences dans leur relation de couple, 70% en avoir été auteurs. Donc, c'est des pourcentages, des prévalences tellement élevées. Et quand on prend l'ensemble des études, des fois, on a des prévalences aussi élevées. Qu'est-ce qu'on se dit quand on a ça? Je ne sais pas si c'est intéressant de le présenter. Parce que le risque, évidemment, c'est de se dire, si c'est fréquent, c'est peut-être normal. Le risque, c'est que de dire si c'est autant, c'est pas possible, ça fait peut-être partie du processus développemental d'aller humilier son petit copain, sa petite copine et de contrôler les réseaux sociaux. D'accord? Donc, on voit un petit peu où se place la norme. Donc, d'une part, c'est intéressant de le voir, mais d'autre part, attention aussi que de présenter cela, ça nous renvoie à un risque de banalisation et de considérer ces comportements comme faisant partie d'eux. Donc, on ne s'en préoccupe pas. 22% des femmes et 15% des hommes victimes de violences domestiques à l'âge adulte en avaient connu dans leur relation amoureuse lors de l'adolescence. Donc, de nouveau, c'est un élément intéressant. De nouveau, on ne va pas être dans une perspective déterministe. On ne va pas dire que c'est parce qu'on était, exposé que l'on va. Néanmoins, on peut voir que si on prend la population des auteurs de violences sexuelles, quels qu'ils soient, donc les délinquants qu'on appelle les délinquants sexuels, les auteurs d'infractions à caractère sexuel, ou que l'on prenne ici, je dirais, ici les adultes auteurs, on peut voir qu'il y a eu cette expérimentation qui a été faite préalablement durant l'adolescence. Ça revient à ce que nous avons dit tout à l'heure sur les apprentissages qui se font et comment finalement cela peut avoir un impact sur les relations futures. Donc, vous êtes très important, parce que c'est vous qui travaillez avec des jeunes qui allez pouvoir justement rompre ce cycle de répétition, qui allez pouvoir proposer d'autres modèles, d'autres schémas de relations amoureuses, de rapports entre jeunes et entre rapports filles-garçons, garçons-garçons, filles-filles, puisque il est important de ne pas oublier aussi tous les types de couples, même si les couples hétérosexuels restent majoritaires au niveau des couples. Filles et garçons peuvent être violents envers leurs partenaires. Donc c'est un autre résultat de recherche qui ressort de manière transversale. À l'adolescence, les filles sont agissantes aussi. Les garçons sont agissants aussi. Donc, on n'est pas dans le schéma fille-victime, garçon-auteur. On est dans un schéma où on voit que les filles sont agissantes également au niveau des violences, et des fois, elles sont même plus agissantes que les garçons, selon les études qui sont menées. D'accord ? Donc, ça, c'est aussi important. Donc, ça nous éloigne également un petit peu de ce qu'on voit dans les modèles adultes, où on a majoritairement des hommes qui sont violents. Ici, on a une violence qui peut être agie dans le couple également. Ceci étant, on intègre dans violence tous ces éléments dont on a déjà parlé, violence psychologique, violence de contrôle, violence physique, violence sexuelle. D'accord ? Mais ce qu'on sait aussi, c'est que justement, lorsqu'on prend la forme de violence, les garçons vont commettre des violences plus sévères au niveau physique et davantage de violences sexuelles que les filles. Donc là, il y a un écart qui se fait entre les filles et les garçons. Mais je pense que c'est très important de l'intégrer dans la prévention également. Pourquoi ? Déjà pour prévenir aussi la violence agie par les filles. Et aussi parce qu'eux, ils savent ce qu'ils vivent, les jeunes. Et donc, il peut avoir, on parlait des effets iatrogènes de la prévention tout à l'heure, que de focaliser uniquement sur la violence exercée par les garçons peut conduire à une forme d'agacement, d'énervement, de révolte, de contestation et d'adhésion peut-être à des cultures autres masculinistes qui contrent justement ce type de réaction. Donc c'est important de parler de la violence des filles, la violence des garçons. On ne trahit pas la cause féministe, on ne trahit pas les 30 ans de recherche et de combat. On donne le reflet d'une réalité existante. Qu'il y a cette violence qui est agie par les filles et les garçons, puis à un moment donné, il y a un écart qui se creuse. Mais les filles peuvent être agissantes également. Et on doit recontextualiser. Donc, on revient sur cette période d'adolescence où on dit, est-ce que finalement, si on a des chiffres comme ça, c'est banal, cette violence ? Est-ce que finalement, ça ne fait pas partie du développement ? Nous allons en cœur répondre, non, ça ne fait pas partie d'un bon développement, mais ça peut s'inscrire au sein du développement. Est-ce que, cette violence ado peut conduire à la violence adulte ? Non, on ne peut pas avoir une perspective déterministe de ce type-là, mais il s'agit d'expériences qui vont participer au script que l'on a, au modèle que l'on va intérioriser sur les relations amoureuses, sur les relations intimes. Est-ce que la violence est une antichambre ? La violence ado, on va réfléchir à la violence ado, soit la violence dans les relations sentimentales, violence dans la vie et les relations sociales, donc une violence qui va être multiforme et pas seulement dans les relations sentimentales, qui va nous amener à questionner ces facteurs de risque par rapport à l'évolution qui va être plus complexe que celle qu'on engage maintenant. Mais il est clair que cumuler des expériences de violence uniquement à ne pas développer des expériences autres va rendre difficile la mobilisation d'autres modélisations. Avec, la précaution que dans un couple, on est deux, pas normalement, et donc l'autre peut participer aussi à des formes de régulation. Donc ça, c'est important aussi. Un partenaire dans une relation peut amener aussi la sécurité, comme je disais tout à l'heure, et peut amener à l'appui de négociations des formes de, je dirais, de compétences, de développement de compétences, alors chez les adolescents. N'oublions pas que la relation, que la violence dans les relations amoureuses, de la même manière que les violences entre partenaires intimes, hein, qu'on appelle plus violence conjugale, pour ces raisons-là, peut se produire durant la relation, mais également après la rupture. Et après la rupture, on a certaines formes de violence qui sont plus aiguës également. Dans le cadre de relations occasionnelles et au sein de couples plus engagés, et évidemment avec toutes les possibilités en termes d'appariement de sexe. Donc, c'est important de le retenir, parce que ça veut dire que quand la relation est terminée, il y a la pré-relation, dont on sait, pour les adultes et pour les violences entre partenaires intimes, qui sont des périodes vraiment fragiles, où on met beaucoup de signaux sur le risque de, et notamment pour certaines situations, un risque létal. Et donc ici aussi, la post-séparation est très importante, notamment au niveau des cyberviolences au sein des couples, où on sait qu'il y a des usages qui sont faits en termes de menaces, chantage et représailles. Donc, je ne vais pas développer spécifiquement les effets moyen terme, court terme, long terme, etc. Peut-être que ça aurait été intéressant, juste vous dire que toutes les recherches vont dans le sens de dire que ça a un impact sur la santé physique, sur la santé psychologique. Ça peut aussi amener une détresse, des sentiments de tristesse, un isolement. Donc, il y a un impact de ces situations, d'autant plus si elles sont répétées, si elles perdurent et s'il y a une absence de soutien. Et l'on peut voir que, je dirais, dans des situations où des jeunes adolescents subissent des insultes de type sexuel, sexiste, etc., nos toutes récentes recherches viennent de montrer qu'il y a un impact sur la santé physique et sur la dépression qui est marqué. Donc, ça veut dire que ça ne laisse pas indifférent. Bien sûr, il y a beaucoup de jeunes qui sont résilients également, mais le risque d'impacter la santé, d'avoir un impact et des conséquences est vraiment réel, ce qui motive encore une fois d'autant plus l'intervention et l'engagement dans des actions. Ceci sont des recherches également. Alors le tableau, il va y avoir quelques tableaux à digeste, hein, mais vous les aurez, vous pourrez les étudier chez vous quand vous aurez le PDF, donc qui permet d'identifier les différents types de violences. Alors il faut savoir que ceci est fait à partir d'enquêtes qui sont proposées en présentiel ou en ligne, et de manière générale, les filles répondent plus. D'accord ? Et non seulement elles répondent plus, elles se dévoilent plus. Donc elles vont davantage s'identifier comme auteurs et davantage s'identifier comme victimes. Ce qui donne un petit peu du bruit dans les chiffres. Hein. Et donc il faut tenir compte de cela. C'est la même chose pour les adultes. Je suis en train de faire une grosse recherche sur le harcèlement sexuel. On voit que les femmes répondent davantage que les hommes. Ce qui est dommage, qu'on voudrait bien s'intéresser vraiment, c'est la réalité des hommes. Mais ils ne souscrivent pas trop à tout ce qui est déjà violence, famille, et répondre à des enquêtes en ligne. C'est très difficile. Bref, donc on voit que les différentes formes de victimisation, je ne vais pas les épeler et les énumérer, mais on voit qu'on a différentes formes de violence qui s'exercent sous l'angle du contrôle et sous l'angle de la privation et l'imposition, donc s'y renvoie également aux notions de domination. Et quand on voit ce dont les garçons sont le plus victimes, c'est leur petite amie, a cessé de leur parler ou refuser de discuter, donc c'est l'ignorance, le déni dont on a parlé tout à l'heure. Donc il y a des formes qui sont distinctes entre les uns et les autres, et donc il est intéressant, et on voit que les différences filles-garçons également peuvent se marquer avec des éléments un peu particuliers qui ressortent, où les filles ont pu se déclarer quand même comme étant agissantes également au niveau physique. La perpétration, donc on parle de perpétration ou d'agissement ou de commission d'actes, c'est quand on va commettre des actes, et lorsqu'on leur demande aussi de se dévoiler et d'expliquer s'ils ont commis des actes, on va pouvoir voir qu'on a de nouveau ces comportements de contrôle qui vont être très présents, de surveillance également, et pour les garçons, on a un comportement tout à fait qui va revenir aussi dans les autres recherches et dont on aurait pu penser que c'était aussi dépassé, obsolète, c'est la position de s'habiller d'une certaine manière. Donc vraiment le diktat qui est de la part des garçons à l'égard des filles sur leur façon de s'habiller. Violence sexuelle, Alors, de nouveau, je ne vais pas rentrer dans les chiffres parce que nous allons avancer. Donc, il y a des violences sexuelles et ce qu'on peut voir, et ce qui me semble le plus intéressant ici, c'est qu'on a des prévalences élevées au niveau du baiser forcé. Vous savez ce que c'est, un baiser forcé ? Il a mis sa langue dans ma bouche, je ne voulais pas, il a continué, il a été loin avec. Je vous le dis, un jeune adolescent qui me parle de cela. Donc, c'est ça, un baiser forcé. Il m'a tenu la tête pour vraiment qu'il mette sa langue dans ma bouche et je ne voulais pas. Donc, ça, c'est un jeune adolescent qui parle de ça. Un plus âgé le dira un petit peu autrement. Et ce qu'on voit, c'est que le baiser forcé est assez présent. Hein. J'ai dit « il », mais j'aurais pu dire « elle » aussi. Cependant, ce que nos analyses ont montré et qui sont publiées dans l'article en français, c'est que chez les filles, le baiser forcé, qu'elles exercent aussi du coup, ne va pas engager une escalade vers d'autres formes de violences sexuelles. Tandis que chez le garçon, ça ressort comme étant un premier acte, comportement, qui augmente le risque, puisqu'on est dans des probabilités statistiques, qui augmente le risque d'être engagé dans une escalade dans d'autres comportements sexuels, d'intrusion, d'effraction, d'attouchement. Donc voilà, c'est un élément auquel on ne s'attendait pas, donc c'est tous ces éléments de recherche qui transparaissent, etc. Ce qui nous amène à dire quoi, de nouveau ? Ne minimisons pas des comportements que l'on pourrait penser comme étant anodins parce que communs. Ne banalisons pas ces comportements puisqu'ils peuvent s'inscrire dans une dynamique d'escalade et de légitimité par rapport à des agirs plus violents. Donc ça, ce n'est pas nécessairement par rapport à une réponse pénale qu'on va donner, c'est de nouveau en termes de prévention, de dire qu'est-ce qu'on accepte, à quoi est-ce qu'on se, qu'est-ce qu'on n'accepte pas, qui met le, comment est-ce qu'on met le haut là. Est-ce que c'est quelque chose que je peux, parce que cette petite jeune, est-ce que je pouvais refuser ? Non, c'est quand même mon amoureux. Ça, c'est des paroles de jeunes adolescents. Ok, autre élément de recherche, si vous voulez bien, si vous avez encore un peu la patience ? Oui, j'avance. Donc, je vais aller très rapidement. Donc, c'est une recherche également de nouveau sur ces violences dans les relations sentimentales avec l'articulation de différentes variables pour voir si finalement on était dans un modèle qui était important et donc on avait la variable de domination, du sentiment de contrôle sur sa propre vie. C'est pour ça que je le présente, c'est ça qui est intéressant, le sentiment de contrôle sur sa propre vie. Ça vous parle, les ados qui ont un sentiment de contrôle sur leur vie ? Ça renvoie à cette notion d'agentivité, on se sent acteur de sa vie, avoir une possibilité de l'orienter dans un sens et d'être un agent aussi de changement, la domination dans la relation et le contrôle dans la relation amoureuse. Et sur base de ça, on a fait des analyses statistiques pour essayer d'expliquer les comportements violents. Alors sans évidemment de grande surprise, on peut voir que les comportements violents étaient expliqués par la domination et le contrôle qu'on a intégré dans ce que recouvre le pouvoir, ou la prise de pouvoir, c'est la domination et le contrôle. Et on voit que ça explique les comportements violents. On peut voir que l'insécurité dans la relation, donc vous voyez que l'insécurité dans la relation, j'en ai parlé tout à l'heure avec l'attachement, ça renvoie à l'insécurité qu'on développe également dans les attachements amoureux. J'ai peur qu'il ne m'aime pas autant que ce que je l'aime, j'ai peur qu'il parte, quand il va voir quelqu'un d'autre, c'est insupportable pour moi. Ça, c'est l'insécurité dans la relation. Eh bien, on peut voir que l'insécurité va expliquer aussi la domination et le contrôle. Et enfin, on voit que le sentiment de contrôle sur sa vie va diminuer la domination et donc la violence. Donc, ceci est un schéma dont je vous présente graphiquement, mais ça vous montre combien il est important de travailler sur les deux premières variables, c'est-à-dire l'insécurité dans la relation et aussi le sentiment de contrôle sur sa propre vie et donc l'agentivité. J'avance. Donc, ceci est dit, donc sentiment d'insécurité, risque de conduite de domination de contrôle, sentiment de perte de contrôle sur sa vie, risque de conduite de domination dans la relation amoureuse. C'est un petit résumé, ça peut aussi vous aider si vous travaillez en prévention pour pouvoir le donner. Donc, et ça pose quand même la question, mais comment on peut le renforcer, avec quels moyens, quels médias? Et là, on peut aller chercher aussi des médias qui ne sont pas seulement des médias en lien avec les violences dans les relations amoureuses. Au final, quand on voit, je dirais, quand on parle de ces violences, on ne peut pas se limiter à parler d'agir isolément. C'est-à-dire, on va pouvoir qu'il y a des dynamiques qui sont très complexes et qui vont se décliner sous différentes formes, voire différentes formes de violence. Et là, vous avez huit formes de violence hein, qui intègrent un peu ce que nous avons déjà évoqué tout au long de cette matinée. N'oublions pas le déni, la dévalorisation qui sont très importantes également et les violences sexuelles, même si jusqu'à présent je ne m'y suis pas spécialement attardée. Ça, c'est Burke. Quand les étudiants voient ça, ils disent Burke parce que c'est des analyses statistiques. Qu'est-ce que ce schéma nous dit ? C'est que, en fait, ces différentes formes de violence, elles sont toutes corrélées. Corrélées, ça veut dire quoi ? Le risque, le fait de vivre une violence augmente le risque de vivre une autre violence. Donc, commettre une forme de violence augmente le risque de commettre une autre violence. Donc, on est pleinement dans quelque chose qui est de l'ordre d'une dynamique. Et de nouveau, ça, c'est des résultats fondés sur des données empiriquement fondées et qui nous montrent qu'on a un processus que j'appelle de polyperpétration et de polyvictimisation. Donc, on est rarement face à un acte isolé, et un acte isolé ne va pas aussi produire des séquelles telles que ces dynamiques qui sont le plus souvent, je dirais, observées dans le cadre des violences des relations amoureuses. Donc, c'est une autre manière de le dire. Et ça nous renvoie également à un autre élément, c'est que dans ces données statistiques, et qui sont confirmées par d'autres recherches, c'est que le statut d'auteur et de victime est interchangeable. Le fait d'être victime augmente le risque de commettre aussi des faits. Le fait de commettre des faits augmente aussi le risque d'en être victime. Pourquoi ? Parce qu'on est dans cette interaction que nous avons vue tout à l'heure dans les violences situationnelles, dans les conflits également, où il peut avoir un moment dans la relation cette bidirectionnalité, en tout cas cette interchangeabilité entre le statut auteur-victime, et tout cela peut s'étendre dans l'espace virtuel. Donc, ça nous amène à ce schéma qui est peut-être plus parlant pour vous. Donc, on a cette escalade et ce processus qui va multiplier le cumul de violence, et en plus avec une interaction qui va se faire entre l'auteur et la victime qui va amener une interchangeabilité des statuts. Bon, on avance quand même dans les violences, et ce qu'on observe, c'est pas sécurisant, en ce sens que ça nous amène à penser à une précocité de l'intervention hyper importante. Précocité de l'intervention, puisqu'on voit que ça fonctionne par un risque de probabilité qui risque d'avoir un cumul, une intervention précoce va permettre de briser ces cercles dans lesquels peuvent s'installer des modes de fonctionnement dans un couple ou dans plusieurs couples. Je voulais rappeler aussi le cycle de la violence parce que jusqu'il y a peu, je disais ce cycle de violence que vous connaissez tous, de Walker, hein, qui explique les différentes étapes qu'il y a dans la violence, hein, où on a la tension, la crise, puis la justification, la lune de miel, qui amène le fait de retourner auprès de son partenaire. Jusqu'il y a peu, je disais, mais ça c'est vraiment Walker, elle a travaillé sur le modèle de femme qui était victime et qui était hébergée notamment et qui a développé vraiment ça sur la clinique. Et je me dis, les adolescents, c'est pas ça. Et en fait, eh bien, de nouveau, j'ai dû revoir ma position de nouveau sur base de la clinique et de la recherche. En fait, ces cycles s'observent vraiment, mais en micro-cycles. Ce sont des micro-cycles sur peu de temps, quoi. Donc, on voit que ce processus est vraiment à l'œuvre et va amener aussi une justification, une légitimation de la part des ados des violences qui sont exercées et qui sont subies. Donc, c'est les deux, qui sont exercées et qui sont subies. Les flèches autour, c'est, vous pouvez le compléter quand vous aurez le diapo, c'est quand est-ce que j'interviens, à quel moment est-ce que j'interviens. Et selon le moment où j'interviens, de quoi le jeune a besoin à ce moment-là, au moment où là où il est, moi, une représentation avec l'identification dont on a parlé, etc. Et donc, on peut alors construire aussi l'intervention. Donc, si l'on pose la question, ce qu'on a posé, s'il y en a autant, est-ce que c'est normal ? Est-ce qu'on peut banaliser ? Vous avez tous crié en cœur, non, on ne peut pas banaliser, enfin, je l'ai entendu. Avec les adolescents, on va reposer ça dans nos recherches en leur posant la question, la violence, est-ce que c'est normal ? Et ils crient en cœur, non, c'est pas normal. Vous dites bien qu'on n'en reste pas là, mais 31% des jeunes indiquent qu'il est normal qu'une fille surveille les conversations téléphoniques et lise les messages de son petit ami sur son GSM. C'est pas grave. Vous avez vu, dans ce qu'on a vu, que ça relève du contrôle. 16% des jeunes trouvent qu'il est normal qu'un garçon contrôle les amis de sa petite amie, deuxième fois. Mais ma fille va accoucher dans les heures qui viennent, donc, et c'est une petite fille, donc je suis désolée, mais je crois que mon inconscient est en accord avec cette future naissance, et donc c'est pour ça que ma langue a fourché. Donc ici, excusez-moi, les amis de sa petite amie sur les réseaux sociaux. Donc voilà, quand on dit des fois 16%, on se dit « oh, que 16% !» Et c'est presque 2 jeunes sur 10, hein, donc c'est quand même pas mal. Non. Vous pensez que j'ai besoin de me oxygéner? Non, ça ira. Merci. Si tu m'aimais vraiment, tu la bloquerais. C'est parce que je t'aime que je ne veux pas que tu parles à d'autres mecs. C'est banal, vous avez déjà entendu ça. Ok, c'est pas si banal que ça. Ok? Banalisation de ces comportements au nom de la jalousie, donc la jalousie revient et nous avons des mythes genrés autour de l'amour et de l'exclusivité qui se perpétuent et qui sont renforcés également. Et Internet augmente l'accès, la possibilité d'accès aux partenaires et les modes de surveillance aussi disponibles. Je reviens sur le cyber, non seulement rencontre, mais sur le cybercontrôle également qui peut s'exercer. Non, relation amoureuse, c'est normal. Non, en cœur, mais... tu ne vas quand même pas sortir comme ça. On revient à ce que nous avons vu. 13% des jeunes pensent qu'il est normal qu'un garçon impose des façons de s'habiller, de se coiffer, de se comporter. Et 15% l'ont fait. Est-ce que c'est grave? Est-ce qu'on doit s'en inquiéter? Mais avec tout ce que je vous dis, oui. Mais pas seulement avec ce que je vous dis, mais avec tout ce qui s'engage en termes de positionnement sexiste, etc. Mais par rapport à cette spirale qu'on a vue, ça s'inscrit également dans des stratégies de contrôle de l'autre qui n'ont pas leur place dans des relations égalitaires. 10% des jeunes disent qu'il est acceptable qu'un garçon donne une claque à sa petite amie si elle le mérite vraiment. Ça fait rire, mais ça ne fait pas rire. Et ce qui est plus intéressant, 32% disent que c'est acceptable quand l'auteur est une fille. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? C'est que quand l'auteur est une fille, c'est plus acceptable. Vous pensez que mes données sont valides, pertinentes? Les filles exercent aussi, alors je ne fais pas un plaidoyer pour la reconnaissance de la violence exercée par les filles, je voulais juste témoigner et traduire les mécanismes qui sont à l'œuvre, je dirais, parmi les jeunes, mais aussi dans la société. Les filles exercent de la violence dans les relations amoureuses, y compris dans l'espace virtuel. Mais les comportements sont jugés plus normaux et plus acceptables quand l'auteur est une fille. Donc, il y a une forme de dilution de la responsabilité des filles lorsqu'elles sont auteurs. Mais, c'est à un prix, évidemment, quand elles sont victimes. Qu'est-ce qui se passe là? Elles deviennent responsables des violences qu'elles subissent. Donc, on est dans un processus ou un continuum de responsabilités qui sont inversées et qui va amener à ce qu'on appelle le victim blaming, où on va blâmer la victime de ce qu'elle a subi. On va la responsabilité de ce qu'elle a subi, quelle que soit la violence. On le voit en violence sexuelle, on le voit en violence physique, on le voit en violence psychologique, de manière vraiment importante. Et ça, c'est vraiment super important. Voilà pourquoi il est important de vraiment pouvoir amener de la nuance également dans ce que l'on peut observer. Donc, on est encore contaminé par toute une série de stéréotypes de genre, des mythes aussi de genre qui sont présents, qui vont amener des tolérances et des attitudes d'acceptation par rapport au comportement des jeunes et qui doivent également s'inscrire dans la prévention. Je n'ai pas le temps de vous présenter tous ces mythes qui ont été bien identifiés, mais donc de nouveau, petit flash prévention. Consentement sexuel à l'adolescence, nous en avons parlé tout à l'heure, c'est vraiment à l'agenda dans tous les pays européens, occidentaux. On parle du consentement, on revoit le consentement, on parle du consentement affirmatif. Il y a la tasse de thé, vous connaissez la petite tasse de thé qui permet de voir oui, c'est oui, non, c'est non, non, oui, c'est oui. Je n'ai pas raté mon coup. Donc, il y a pas mal de campagnes à l'heure actuelle et on est en train de mener une étude vraiment pour voir comment les jeunes... conceptualisent le consentement et comment elles intègrent également ces nouvelles, ces normes et ces repères au niveau du consentement. Donc je reviendrai dans 2 ans vous présenter cela. Cependant, on a déjà recueilli un petit peu au niveau des focus group également. Donc vous voyez qu'on a des focus group filles, des focus group garçons, là chez des adolescents. Est-il nécessaire et dans les faits, qu'est-ce qu'ils en font? Alors, ce qu'ils disent de nouveau, c'est que ben oui, il faut le consentement. Si elle n'a pas dit oui, c'est non. Sauf, de nouveau, vous voyez que, sauf que ce qui apparaît très vite dans le groupe, dans les productions, dans une relation de couple, surtout si elle dure longtemps, ben, ce n'est pas nécessaire. Si tu es avec quelqu'un, tu ne vas pas demander « est-ce que je peux t'embrasser, s'il te plaît ?» nous dit un garçon d'un focus group. Puis, pour faire plaisir au partenaire, ben alors, voilà, c'est quand même j'irais du consentement. Quoi. Que le consentement ne se dit pas, il se sent. Donc, cette croyance relative au consentement qui est perceptif, olfactif et sensoriel est assez, je dirais, dominant. Et donc, parler le consentement apparaît comme un frein par rapport à la sexualité. Donc, qu'en est-il de la culture du viol? Qu'en est-il de la culture du consentement? Je pense que mon hypothèse, c'est qu'on est vraiment dans une transition aussi sociologique de la culture du viol vers la culture du consentement. Mais nous avons encore des pas à effectuer et de nouveau de voir comment les jeunes vont se saisir de ce cadre appuyer ou revisiter du consentement. Et ce qui ressort aussi, c'est que les jeunes adultes, ils ont quasi plus de mal, donc les émergents, plus de mal que les adolescents. Mais bon, ça, c'est juste ce qui ressort pour le moment. Petite vidéo pour un petit peu animer la séance. Des spots, vous les connaissez, arrête.be. Donc, vous pouvez aller voir sur le site de la Fédération Wallonie-Bruxelles en Belgique. Il y a 4 spots qui sont basés sur des recherches que nous avons effectuées, puis qu'ils ont vraiment créées sur les violences dans les relations amoureuses et qui permettent d'être utilisés dans des interventions de prévention, de discussion, etc. Et donc, ici, aussi travailler avec dans pas mal de design de recherche où on mettait ce spot puis on créait une discussion avec des jeunes pour voir les productions qui vont être produites donc et qui sont vraiment tout à fait intéressantes parce qu'on va voir le même phénomène que celui que j'ai présenté tout à l'heure où le victim blaming va assez rapidement émerger quel que soit le groupe. Donc cette notion de coercition sexuelle, si on est fort centré sur les agirs sexuels, on je dirais ces agirs sexuels qui sont qualifiés pénalement, qui sont identifiés, on est moins centré sur les coercitions sexuelles qui néanmoins sont ces stratégies dont on a parlé tout à l'heure qui permettent justement à obtenir un consentement de la personne, enfin d'obtenir un consentement entre guillemets, mais qui permettent à pouvoir créer une situation où la victime et peut-être considéré comme étant consentant. Donc, ces stratégies de coercition sexuelle, il est très important également de les prendre en compte et de les travailler avec les jeunes. Vous avez vu une vidéo, je ne vais pas la décrire et aller plus loin, elle est suffisamment parlante par ce qu'elle montre, mais il est évident que là, il y a tout un travail également à effectuer. Donc, c'est l'utilisation, je vous donne une définition pour bien l'avoir en tête, et on peut voir qu'il y a des coercitions de différentes natures qui peuvent s'exercer, psychologique, physique et par l'alcool ou la drogue. Et c'est vraiment dans toutes les situations où il y a des violences sexuelles, il y a des coercitions sexuelles, systématiquement. On ne les voit pas tout le temps, mais quand on va reprendre toute la dynamique et le processus, quand on s'intéresse au processus, on peut le voir. On a encore un peu de temps? Oui, hein? Ça va, vous n'avez pas trop faim ou vous n'êtes pas trop fatigué? Non? Alors, on va voir quelques petites vignettes cliniques. Amandine, 15 ans, envoie des photos d'elle nue à son petit ami. Ça vous parle, hein? La relation s'est terminée. Il menace de les diffuser aux copains d'école si elle refuse de poursuivre la relation avec lui. J'ai fait le con sur Internet. Hier soir, sur Skype, j'ai commencé à chatter avec une fille de mon âge. Elle m'a demandé d'allumer ma webcam et de me masturber devant la caméra. Comme un con, je l'ai fait. Louis, 16 ans, consulte suite à une tentative de suicide. Elle a été filmée à son insu pendant ses rapports sexuels avec son ex-petite amie. Ces images sont sur le net. Donc, ce sont des situations qui nous arrivent en clinique, qui nous arrivent avec vraiment une anxiété chez les victimes de cette diffusion d'images, de leur intimité, diffusion d'images de leur corps, diffusion d'images qui peuvent en plus, qui sont commentées en chaîne avec des commentaires de différentes natures, mais souvent dégradantes et humiliantes, eh bien ces jeunes arrivent vraiment dans un état pitoyable, dans un état de détresse terrible, et notamment en lien, il y a une perte de contrôle vraiment de son intimité, il y a une perte de contrôle de ce que l'autre voit de soi, et donc ça a un impact dévastateur au niveau identitaire, au niveau psychologique. Et le travail à effectuer n'est vraiment pas facile, parce qu'effectivement, ça renvoie à une forme aussi d'impuissance, parce que ça a tellement... Les images ont tellement tourné qu'il n'est pas possible même de pouvoir ni objectiver, ni on peut juste dire ça s'est arrêté, c'était retiré, il y a eu une action qui a été menée, que ce soit au niveau judiciaire, de l'école, etc. Tout ça pour vous dire que ces situations sont vraiment extrêmement préjudiciables au niveau des victimes. Donc ça nous amène de nouveau à cette question qu'on a déjà envisagée au travers des cyber-rencontres, c'est est-ce que les numériques que dont nous avons vanté comme les vertus dans le cadre de la socialisation, nous pouvons y voir maintenant la facette plus sous l'angle des violences, est-ce que c'est un vecteur de violence et de violence sexuelle. Alors, de nouveau, on va se référer aux études qui ont été faites. Donc, je me plonge souvent dans les recherches, parce que je ne peux pas seulement aller dans la clinique, parce que moi, la clinique, j'ai des personnes qui ne vont pas bien, et des personnes qui sont déjà en identification. Dans la recherche, on a toute la population. Et on s'est intéressé au sexting et au nudes au moment de l'adolescence et de l'âge adulte. Et de nouveau, il y a une grosse méta-analyse qui a été menée et qui montre que 14% des jeunes âgés de 12 à 17 ans ont déjà envoyé un sexto et 27% l'ont déjà reçu. Donc, un sexto, c'est une image de soi avec un contenu sexuel explicite. D'accord ? L'âge moyen étant de 15 ans, avec des proportions quasi égales chez les garçons et les filles. Ça peut paraître beaucoup, pas beaucoup. En tout cas, ça amène la question, tiens, quelle place ça a dans dans la vie des jeunes. Moi, ces jeunes que j'ai en consultation, qui sont engagés dans des victimisations, des violences, ils l'ont tous fait des enfants. Dans leur relation amoureuse, c'est une nouvelle modalité de relation amoureuse. Effectivement, parce qu'on peut voir que plus de 60% de ces adolescents ont envoyé ces contenus dans un contexte amoureux. Donc, ce n'est pas envoyé dans un contexte de violence, c'est dans un contexte amoureux et à l'égard, c'était destiné à un partenaire amoureux. Donc, s'y amène, vous savez, on a travaillé en éthologie sur la parade amoureuse chez les animaux, puis chez l'humain, etc. Je dis, est-ce que ça fait partie d'une nouvelle parade amoureuse? Est-ce que ça fait partie d'une nouvelle manière d'interagir, je dirais, dans le cadre des rapports amoureux? Pour une part, oui, mais je dirais, ça peut comporter également le risque que ces images sont diffusées. Alors, on s'est intéressé à savoir, finalement, qu'est-ce qui fait, pourquoi est-ce que ces nudes sont envoyées par les jeunes? Et on voit que 50% disent avoir envoyé un sexto pour se sentir sexy. Donc, vous voyez de nouveau cette culture de l'image de soi qui peut passer par le fait d'être attractif, appétissant, sexy, au travers notamment un dévoilement de soi sexuel. 78% cependant nous disent qu'il y a une pression qui a été à l'initiative de cet envoi. Donc ça se fait dans un contexte amoureux, mais il y a néanmoins des pressions qui peuvent être exercées. Et 78% pour attirer ou garder l'attention d'un partenaire. Ce ne sont que des chiffres qui donne une indication. Ça nous permet aussi d'inscrire ça dans la relation, sous l'angle de pression, sous l'angle de recherche de validation, sous l'angle de maintenir le partenaire dans une relation à des prix qui peuvent devenir extrêmement coûteux, notamment lorsqu'on prend en considération le revenge porn, donc cet envoi des sexting, des images qui vont être envoyées de manière non consentie et qui vont être vraiment répliquées dans des chaînes assez importantes. On voit que la pratique du sexting dans, de nouveau dans les modèles statistiques est corrélé à toutes les autres formes de violence. Donc on n'est pas devant finalement, comment dirais-je donc, uniquement dans un modèle unique de comportement que l'on peut lire uniquement à travers de la parole amoureuse. On voit que c'est un comportement à risque et qui va aussi s'inscrire dans une dynamique de polyviolence. Donc ça, c'est vraiment très important, de polycyberviolence, si je peux m'exprimer. Donc on voit que ça s'inscrit dans une économie, dans une dynamique multiple et complexe, et donc il est important également de le prendre en considération avec ce versant qu'on a vu en termes de ça peut s'inscrire dans une relation et ça peut avoir du sens, quelles sont les motivations et vers quoi ça peut conduire. Un jeune sur 10 a déjà envoyé à d'autres personnes les sextos ou les nudes qu'il avait reçus. C'est beaucoup. Ces partages se font à la chaîne, donc ça veut dire, donc il y en a un sur 10, mais alors ça circule. Vous en avez sûrement déjà vu, ces images circulent quand même rapidement avant d'être stoppées. Et en fait, lors de la séparation, il y a souvent la menace de qui va être, je dirais, utilisée de la diffusion pour l'obtention, soit encore de rapports sexuels, soit pour le maintien de la relation. Et comme je le disais, le traumatisme est vraiment très, très important et consécutif. On va repartir sur une deuxième Qu'est-ce que je ne... Donc... De nouveau, cette vidéo repose sur les données de recherche également et renvoie à ce revenge porn qui est opéré avec traumatisme. Et donc, dans je dirais, de nouveau, les groupes que l'on fait, on présente cette vidéo et on peut, cette capsule, et on peut voir que cette notion, toutes ces notions qui sont quand même apprises, connues en termes de consentement, on peut voir que ça donne comme lieu à des productions quand même assez radicales. Si elle a envoyé la vidéo elle-même, alors quelque part, elle consent ce qui lui arrive. Maintenant, il faut assumer les conséquences. Donc, c'est des propos qu'on revoit quand même assez fréquemment. Les filles, donc, on revient finalement à ces mythes genrés. Les filles sont responsables et les garçons sont incontrôlables. Et dans la recherche actuellement que je suis en train de mener avec une population d'étudiants en enseignement supérieur, avec vraiment 10 000 participants, donc c'est quand même énorme, et on voit que ceci ressort. Enfin, ça c'est de nouveau des résultats tout frais, mais on est vraiment étonné de voir combien ces mythes restent présents, la responsabilité de la fille et le fait qu'un mec peut... n'est pas contrôlable, donc est excusable. Il ne sait pas contrôler ses pulsions. Vous n'avez pas l'impression d'être en 2023, je pense. Mais si, on est en 2023, c'est des données vraiment toutes récentes. Donc, les jeunes restent imprégnés de stéréotypes autour de la sexualité et des rôles de genre. Et les filles doivent être réservées. Les garçons ne peuvent pas contrôler leurs pulsions. La jeune fille est tenue, au moins en partie, pour responsable de l'utilisation de ces images. Et c'est donc ce dont je vous parlais tout à l'heure, le continuum de la responsabilité du victim blaming. Je vais passer cette partie du cybersexisme. Vous l'aurez, c'est vraiment, ce n'est pas ancré dans les relations amoureuses, mais c'est en lien aussi. Donc, je vais le passer rapidement avec des belles définitions, etc. Et surtout, un site, tout ça pour dire que ce qui se passe dans le cyber en lien avec ces comportements va être support de popularité pour les garçons et support de dégradation pour les filles. Dernière, Dia, on arrive au bout, ouf, hein. On ne peut pas parler des relations sentimentales, des violences sans parler de la consommation. Et juste pour vous dire de nouveau, petite vignette qu'on a proposée aux jeunes également et en lui posant des questions. Est-ce que le temps tire, faut que j'accélère ? Accélérer ? Non ? Ah, ok. J'y vais alors. Arthur, âgé de 19 ans, vient de passer une soirée lors d'une fête avec Laura, âgée elle aussi de 19 ans, une fille qu'il trouve très attirante. Il sort avec elle depuis plusieurs semaines. Arthur trouve que Laura est très jolie ce soir. Elle est habillée de manière très sexy. Il sait que Laura a eu des rapports sexuels occasionnels avec plusieurs garçons depuis qu'elle est aux études. Bien qu'il n'ait jamais fait l'amour avec Laura, il espère vraiment en avoir l'occasion ce soir. Pendant la sortie, Arthur et Laura ont tous les deux bu plusieurs boissons alcoolisées. Après celle-ci, ils rentrent tous les deux chez Arthur. Après avoir discuté un moment, Laura dit à Arthur qu'elle est vraiment très fatiguée. Donc, ça rejoint un petit peu la capsule qu'on a vue. Arthur se sent vraiment excité, donc il s'approche de Laura pour l'embrasser. Après quelques minutes, il commence à passer la main sous la blouse de Laura. Laura ne répond plus, mais ne résiste pas à Arthur, qui entreprend des rapports sexuels. Donc ça, c'est une vignette qui repose sur une situation réelle. Et puis, on la propose en posant différentes questions. Donc, vous allez répondre sans me donner les réponses. Selon vous, dans quelle mesure l'alcool a une influence sur le comportement d'Arthur, sur le comportement de Laura? Est-ce qu'elle était consentante par rapport au rapport sexuel? Et Arthur aurait-il perçu que Laura était consentante? Donc, en fait, on se situe pleinement dans la perception du consentement, parce que l'enjeu est celui-là, c'est de percevoir le consentement chez l'autre, et ici de voir comment l'alcool peut altérer ce consentement. Et donc, c'était les questions de recherche qu'on s'est posées. Et on a pu voir que les jeunes qui avaient une consommation régulière, eh bien, ils ont une beaucoup plus faible perception du non-consentement sexuel. Donc, pas parce qu'ils ont bu dans la situation. Donc, être consommateur donc de boissons régulières est associé au fait de moins être susceptible d'identifier le non-consentement de l'autre. Plus il y a une adhésion au mythe de viol, donc si vous ne connaissez pas, vous allez voir, vous trouverez la littérature sans problème sur ces mythes de viol, ils sont vraiment intéressants, eh bien, moins de perception du non-consentement. Donc, plus on va adhérer à ces mythes relatifs d'acceptation du viol, moins on va percevoir le non-consentement. Et la perception élevée de l'influence de l'alcool chez l'auteur, donc ceux qui répondent, oui, Arthur, finalement, il y avait une consommation, etc., va amener à le déculpabiliser et à responsabiliser la victime. Donc, de nouveau, on retourne dans un processus dans lequel on va déculpabiliser, en raison de l'alcool, l'auteur, mais on va culpabiliser la victime en raison de l'alcool. Donc, on est dans un mécanisme où, finalement, l'alcool a certes une influence, mais ce sont aussi toutes les attitudes, tous les mythes qui vont vraiment impacter, je dirais, ce cadrage, cette compréhension, cette lecture que les jeunes peuvent avoir. Alors, pour conclure, aujourd'hui, donc, vous avez vu que chaque fois, j'ai parlé de flash prévention, etc., et que cette prévention partait avec un angle très large sur une prévention primaire et puis sur un angle plus resserré sur les violences sexuelles. Donc, la prévention passe par un objectif, c'est l'auto-identification et l'identification par les pairs. Vous avez vu que la santé mentale positive faisait partie vraiment des éléments, la promotion de modèles sains de relations égalitaires, l'éducation au consentement, la prévention en termes de consommation également, donc sans que ce soit ciblé sur les violences, mais on vient de voir les résultats que la consommation et la prévention et la gestion des risques, etc., en matière de consommation sont très importants. L'éducation par rapport au contrôle, comportement de contrôle, les réseaux sociaux et la question des cyber-rencontres. Merci si vous avez des pistes à ce niveau-là pour y travailler. Et une lutte contre l'acceptation des mythes de viol et de violence conjugale. Et donc là, vous avez tout ce qui relève des risques. Et travailler ces différentes sphères-là en collaboration avec différents acteurs va permettre de développer des protections au niveau des jeunes par rapport aux risques de violence. Et je pense que c'est fini. J'avais une dernière diapo, du coup, qui donnait des pistes de prévention, mais qui s'inscrivait dans celle-là en disant que ce qui est très important, c'est finalement qu'il y ait une participation de l'ensemble des acteurs de première ligne et des acteurs spécialisés également dans le domaine de l'adolescence. C'est travailler sur l'auto-identification, c'est travailler également avec les témoins, les autres jeunes témoins, pour pouvoir vraiment mettre des piliers de prévention à tous les endroits. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention soutenue.
Merci vraiment pour cet exposé vraiment très clair. Et pour les personnes qui ont pu aller à la rencontre des couloirs de la violence amoureuse hier, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vous ont parlé, parce que tous les thèmes, les thématiques en fait que vous avez exposées, on les retrouve vraiment très très clairement dans les couloirs, et ça a vraiment beaucoup de sens. Merci beaucoup.
Pour ma part, en tout cas, ça a beaucoup fait écho à ma pratique dans l'accompagnement des jeunes et également sur les actions de prévention. sur lesquelles j'interviens, sur les questions de l'attention. Et vraiment, ben, merci, j'ai trouvé ça très qualitatif et très intéressant. C'est mon avis personnel. Mais on ne va pas monopoliser la parole, on va laisser la place aux questions, s'il y en a dans la salle. Alors, je sais que vous avez très faim, mais on peut prendre le temps quand même pour quelques questions. Ouais, juste devant. Dans la banette au fond, il n'y a pas de questions.
Oui, bonjour. J'ai trouvé très intéressant votre exposé et j'aurais voulu une précision concernant l'intimité. Moi, je travaille en établissement scolaire, donc cette question de l'intimité dans la relation amoureuse et les choses qui sont balancées sur les réseaux sociaux, ça pose énormément de questions. Est-ce que vous pensez que les jeunes, ils n'ont pas tous conscience de l'intimité? Vous avez dit que ça les rendait très insécures. Et est-ce que c'est l'une des raisons qui fait que, du coup, comme ils n'ont pas cette conscience de l'intimité, les rapports sexuels sont filmés et ensuite partagés? Et puis une autre question par rapport au porno qui est accessible H24 sur les réseaux sociaux, le porno et la réalité. Alors, quand on fait des interventions de prévention, il y en a certains qui nous disent « oui, le porno, ce n'est pas la réalité », mais puis le porno et la violence. Merci.
Très mal, mais je vais répondre à la deuxième question sur le porno. En fait, quand on travaille avec des grosses populations, on voit que vraiment il est rare que a du matériel sexuel explicite qu'on appelle du porno. On y est très vite, hein. Vous pouvez faire l'exercice, on y est vraiment très très vite, et donc soit de manière accidentelle, soit de manière volontaire. Donc il y a quand même ce qu'on appelle une consommation pornographique qui est relativement fréquente et généralisée et qui peut en soi ne pas paraître problématique. Ce qui est important de nouveau de relever, c'est quand on essaie de savoir qu'est-ce qui amène ces jeunes à aller à rechercher du matériel, c'est souvent par une recherche d'informations. Donc de nouveau, manque au niveau de l'éducation et de l'accompagnement par rapport à la sexualité. Et là, le risque effectivement, c'est plus il y a un manque d'informations qui soit menée par des professionnels, plus, je dirais, un jeune peut se tourner vers des réseaux sociaux et où l'on sait que les mythes genrés de performance masculine et au niveau des filles également qui sont objectifiées, représentées comme des objets, dans ces images, peut impacter effectivement la manière dont les jeunes peuvent vivre leur sexualité. C'est une question d'intensité et de fréquence. Tous les jeunes que j'ai vu, j'en ai vu comme depuis mes 30 ans de carrière comme un grand nombre, qui ont commis des violences sexuelles, donc dans le cadre des dossiers d'expertise, donc des dossiers côté judiciarisé, il n'y en a pas un qui n'avait pas eu une consommation pornographique fréquente et intense. Donc cette fréquence intense, ça veut dire se lever la nuit, aller regarder du matériel, des images. Donc ça, c'est une chose. Donc il y a la fréquence et l'intensité et le contenu. Puisque dans ces situations-là, il y a une escalade dans les contenus qu'on dit les plus hard, de plus en plus violents, et qui va effectivement amener un modelage aussi chez ces jeunes qui sont vulnérables aussi par ailleurs. Donc plus le jeune va présenter des vulnérabilités au niveau psychologique et social, plus il risque de ne pas être équipé et armé pour faire face et rétablir le curseur au bon endroit sur la normalité ou la non-normalité. Donc ces jeunes, effectivement, bon, sont des jeunes pour une grande partie qui présentent certaines vulnérabilités, eh bien, sont phagocytés par cette escalade également dans l'envahissement de la conscience, du champ de la conscience, par des images à contenu sexuel non représentatif de la réalité, mais à contenu extrêmement, je dirais, soit de type sadique, de type usage d'objets, enfin, je vous passe les détails, et ils ne sont pas équipés pour faire face à cela. Si un adulte regarde ce genre d'image, on peut penser qu'il est davantage équipé qu'un adolescent. Un adolescent n'est pas équipé pour faire face à ces images, surtout lorsqu'elles sont de forte intensité et fréquentes. Donc il est nécessaire que ce soit tiercisé, comme je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a un tiers qui puisse parler je dirais, de cela ou créer un espace par rapport à cela. Donc, d'une part, il ne faut pas diaboliser, d'accord, mais il faut se rendre compte quand même que le rapport va être différent d'un jeune à un autre jeune, selon ses vulnérabilités, selon ses comportements qu'il va avoir. Donc ça, c'était la deuxième question. Je ne sais pas si j'ai répondu, du coup. Peut-être. Et alors, la première question sur l'intimité. Je trouve l'intimité égale sécurité. Je ne sais pas si ça peut répondre à la question. Donc, l'intimité, on peut le penser uniquement au travers de la proximité physique, etc. Mais l'intimité, ainsi que je l'ai présentée, est conditionnée par comment développer une sécurité dans la relation, et une sécurité pas tout seul, mais à deux. Donc ça peut donner une piste peut-être pour répondre à la question que j'ai entendue en partie. Je suis désolée, il y avait une résonance micro. Je ne sais, je ne vois pas le retour.
On va peut-être passer à une autre question, si quelqu'un...
Oui. Bonjour. Ma question porte sur le délai dont vous nous avez parlé tout à l'heure entre le moment de l'identification de besoin d'aide et le recours à une ressource pour pouvoir effectivement être aidé, ce délai de 11 ans dont vous nous avez parlé. J'aurais voulu que vous puissiez nous préciser à quoi il est dû ce délai. Est-ce que c'est la situation de contrôle, de pression, etc. qui empêche le recours à la demande d'aide, ou est-ce que c'est le manque de structure existante, enfin voilà, d'approfondir un petit peu le pourquoi de ce délai de 11 ans.
Merci pour votre question, parce que peut-être que je n'ai pas été suffisamment claire dans mon propos. Donc ce délai qui est assez impressionnant, c'est dans le domaine de la santé mentale, et donc ce n'est pas dans le domaine des violences. Donc c'est le délai qui... entre la survenue des premiers symptômes et la recherche d'aide auprès d'un soignant, d'un professionnel. Donc, ce que je vous ai dit, c'est que 11 ans, qui a diminué avec des nouveaux dispositifs que vous voyez à l'accessibilité des patients, et ce sont des barrières qui sont principalement ce qu'on appelle des barrières cognitives, c'est-à-dire des croyances qui vont entraver d'aller rechercher de l'aide, et qui sont « je vais pouvoir m'en sortir tout seul ». Qui sont la dépression, c'est la folie, aller voir un psy, c'est pour les fous. Donc, mais cette barrière cognitive sur le sentiment de pouvoir s'en sortir seul et de ne pas rechercher de l'aide est parmi celles qui sont les plus importantes. Bon, il y a des barrières qui sont d'un autre ordre, qui est l'accessibilité financière, et aussi la difficulté vraiment de, je dirais, rechercher de l'aide, parce que en lien également avec ce que je vous expliquais tout à l'heure, à savoir en termes d'attachement, d'avoir une certaine sécurité, une confiance, que si l'on va consulter, ça aura un impact positif, mesurable et un bénéfice finalement pour la personne. Donc ce modèle en matière santé mentale, je l'ai appliqué et répliqué dans le domaine des violences, en vous disant le recours, la recherche d'aide est une démarche excessivement difficile, dont on ne prend pas nécessairement conscience, et la recherche d'aide dans le domaine des violences l'est, je pourrais dire, encore davantage, puisqu'il y a une double couche de honte qui s'y ajoute notamment.
Oui, merci. C'est bon ? Ok. Merci pour votre intervention. Avant la pause, vous parliez de type d'attachement. Et en fait, je me demandais si on pouvait faire une lecture genrée de l'attachement. Vous disiez que dans le cadre d'une séparation, il pouvait y avoir des réactions très très intenses de la part d'auteurs de féminicides. Et en fait, je me demandais si un attachement insécure pouvait provoquer des réactions différentes selon qu'on est un homme ou une femme. Donc en gros, les auteurs de féminicides, c'est plutôt des hommes, quoi. Voilà, si le genre pouvait avoir une influence sur les conséquences du type d'attachement de la personne. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis.
Il n'y a pas de littérature, en tout cas, qui a mobilisé une lecture genrée pour l'attachement, mais par contre, il y a une littérature qui est bien développée concernant les féminicides, où il n'est pas évidemment seulement question d'attachement et d'angoisse de séparation, mais il y a donc d'autres éléments. Mais je veux dire, cette angoisse d'être quittée, d'être abandonnée, elle est présente chez les femmes et chez les hommes. Par contre, être abandonnée pour un homme dans notre société peut encore à ce jour, ou en tout cas pour un jeune homme, être vue comme une atteinte à sa, je dirais, à son identité, à son image, à sa popularité et à sa masculinité même. Donc il faut associer vraiment les deux éléments peut-être pour permettre cette lecture genre et attachement.
Oui, bonjour. Je voulais revenir sur la prévention. Vous parlez de repères positifs et je trouve que c'est très 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 intéressant de montrer des relations saines effectivement. Et j'avais peut-être je trouve qu'il manquait peut-être la partie prostitution. Les filles, notamment, je trouve, n'ont pas assez de repères sur qu'est-ce qui les amène à la prostitution et la banalisation, tout ce qui est michetonnage, etc. Je trouve qu'on on a quand même des alertes là-dessus et je trouve que c'est quand même une violence faite aux filles. Et d'autre part, donc le besoin de repères, hein, par rapport aux repères, du coup, qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui se fait pas, pourquoi est-ce que... Parce qu'on minimise la prostitution ou pas, enfin voilà, cette question-là, je trouve qu'elle était aussi importante peut-être à poser. Sur la prévention saine, comment ne pas tomber dans le bisounours ? Comment faire de la prévention qui soit effective ? Et puis, est-ce que vous avez des exemples qui se sont faits en Belgique sur cette prévention de repères positifs ?
Concernant la prostitution, c'est très difficile d'avoir déjà des données sur la prostitution des mineurs et des jeunes adultes. Et c'est vrai que finalement, c'est un angle mort. Child Focus y travaille, je ne sais pas si vous connaissez, qui est un organisme belge qui a tout d'abord travaillé à la suite de l'affaire Dutroux et qui ensuite travaille sur les enfants disparus, sur l'exploitation sexuelle des enfants et sur la prostitution, et où il tente de mettre en place toute une série d'interventions de différentes natures. Donc je vous invite à aller sur le site, parce qu'il y a pas mal d'outils qui sont mobilisables pour les intégrer, mais c'est un angle mort dans la recherche, vraiment, et également dans la pratique. Et dans la recherche, quand on a fait des recherches, on a rencontré... des jeunes filles, des jeunes femmes, enfin des jeunes adultes plutôt, donc des majeurs, qui se prostituaient. Et en fait, cette question d'identification, l'auto-identification comme de l'exploitation sexuelle est vraiment questionnée parce que ce n'est pas nécessairement la narration et le récit qu'en donnent ces jeunes femmes au moment où elles le vivent. Donc on est de nouveau dans un processus où il y aura une légitimation de certaines pratiques motivées par différents éléments, pas seulement financiers, et notamment dans la population étudiante. Donc il y a énormément d'étudiantes qui se prostituent. Enfin, énormément. Il y a des étudiantes qui se prostituent en plus grand nombre que ce que l'on croit. Et les motivations sont vraiment diverses. Et il y a une revendication de mettre en place la dimension volontaire aussi de leur part et de choix qui a été opéré. Et puis, il y a une dimension, enfin voilà, toute une série de dimensions qui nous ont un petit peu, je dirais, surpris dans les résultats que l'on a eus. Puis, il y a tout ce qui relève de l'exploitation sexuelle des mineurs et qui est, à l'heure actuelle, qui est, je dirais, quand même pas mal contrôlé par les services judiciaires à l'international notamment, hein, où, notamment dans le contexte de l'expertise, on a des dossiers où on a identifié des situations belges au travers de production et d'agissements qui se passaient dans d'autres pays. Donc il y a quand même une prise en compte de cela dans le secteur judiciaire, plus que dans le secteur psychosocial, de mon point de vue, sauf par quelques organismes. Et l'autre question, c'était la promotion à la santé positive. il y a différentes actions. On n'est pas très loin, en fait. C'est de nouveau, je dirais de nouveau, je vais vous renvoyer sur les sites québécois où eux, ils agissent sur cette promotion à la santé positive depuis vraiment très longtemps. Et il y a eu des actions qui ont été menées à l'initiative de modèles qui ont été proposés au Québec, qu'on a implémentés dans les universités, dans les écoles, au sein des écoles pour promouvoir à la fois la déstigmatisation de la santé mentale, des problèmes de santé mentale, et à la fois la proposition de fonctionnement pour arriver à une qualité, à un bien-être et à une qualité de vie suffisante que pour déployer toutes ces compétences. Donc à nouveau, là, il y a des outils sur les sites québécois davantage que ce qu'il y en a en Belgique, parce que on n'est pas non plus dans un prisme qui va développer cet angle-là. On développe davantage l'angle de la santé mentale détériorée et en difficulté. Voilà, donc il y a du travail partout. Je pense que vous avez été pêché des modèles québécois, mais il est vrai qu'eux trouvent qu'on est vraiment très avancé. C'est toujours comique, ils disent « Ah, mais nous, la Belgique, la France, vous êtes vraiment des pays où c'est vraiment super avancé dans l'intervention, et nous, on est baba devant toutes les propositions qu'ils ont dans tous les domaines, en tout cas du moins dans les domaines dans lesquels je travaille, que ce soit en criminalité, en terrorisme ou en violence amoureuse. »
Donc, nous allons pouvoir clôturer cette matinée. Avant juste que vous partiez manger, je voudrais déjà vous remercier vraiment pour cette intervention qui était très riche et très, très intéressante.
Merci beaucoup, au plaisir.
Alors, donc... juste une petite information à vous passer. Donc, vous avez la possibilité de manger sur place pour les personnes qui ont déjà réservé leur repas. Il reste quelques sandwichs, si j'ai bien compris, pour les personnes qui n'ont pas réservé. Vous pouvez les chercher et passer aux tables d'inscription pour voir. Voilà. Et sinon, nous reprenons à 13h30 tapante. Pour que nous puissions vraiment garder le rythme de la journée. Merci, bon appétit.